Bienvenue à Une heure en Palestine. Je suis Anne et je vais animer cette émission qui est animée par l'équipe de Palestine 13. Je vous invite à visiter notre site pour voir l'agenda, mais je vous signale deux choses sur l'agenda très importantes. Le 14 mars, ce samedi, il y a un appel à construire les mobilisations sur tout le territoire. Ici, à Marseille, il y a un rendez-vous à la porte d'Aix pour une grande mobilisation. Ça sera pour, contre le racisme, le fascisme et les violences de l'État. Donc, c'est pour samedi, le 14 mars, à 14h, à Marseille, à la porte d'Aix. Ensuite, je vous invite aussi à visiter l'agenda sur le site de Palestine 13 parce que là, vous avez les liens. Un, pour signer cet appel de mobilisation et deux, pour déclarer une manifestation dans votre commune. Donc, nous vous invitons à vous mobiliser pour cet appel. Ensuite, le samedi 28 mars, c'est la journée de la terre. En France, il y aura beaucoup de grandes manifestations unitaires régionales. À Marseille, dans notre région, il y a un grand mouvement de solidarité pour la défense des droits du peuple palestinien. Vous pouvez vous référer à l'agenda sur le site Palestine 13 pour voir toutes les signataires et les détails de cette grande manifestation. Donc, le rendez-vous est à 14h, place de la Joliette, à Marseille, le samedi 28 mars. Alors, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est justement la répression des mouvements de solidarité. Nous accueillons Claude Zurbach, qui revient à Radio-Galère pour la troisième fois. Il est venu présenter deux livres. Le premier, c'est « Ces chaînes seront brisées », édition Scribest de Ramzi Baroud, au sujet des prisonniers politiques palestiniens. Le deuxième livre, c'était « Notre vision pour la libération », une collection de témoignages des personnalités palestiniennes par Ramzi Baroud et Ilan Pape, édition La Guillotine. Alors, Claude, bonjour.
Bonsoir, Anne.
Alors, vous êtes éditeur du site Chronique de Palestine. Vous êtes traducteur donc, d'ouvrages de l'écrivain et journaliste américano-palestinien Ramzi Baroud. Et vous êtes informaticien de métier. Aujourd'hui, vous allez parler de la répression des mouvements de solidarité. Alors, est-ce qu'on peut commencer avec le contexte international, peut-être?
Oui, bien sûr, oui. Tout d'abord, je remercie Palestine 13 et je remercie Radio-Galère pour cette invitation. Alors, aujourd'hui, il n'est pas possible d'aborder la Palestine sous quelque aspect que ce soit la Palestine elle-même ou le mouvement de solidarité, sans devoir dire un mot sur le contexte. Le contexte, forcément, impacte beaucoup de choses. Et ce à quoi nous assistons, c'est donc maintenant depuis 12 jours, C'est un véritable déferlement de violence à très grande échelle dans le Moyen-Orient. Et c'est une situation que l'on pouvait anticiper, puisque les tensions entre les États-Unis et l'Iran et l'État israélien sont très anciennes. Et qu'on pouvait logiquement supposer qu'à un moment donné, il y aurait une escalade et un affrontement à grande échelle. Alors, quand on a commencé à protester contre le génocide à Gaza, on avait tous le sentiment qu'il se passait quelque chose qui était une espèce de ligne rouge qui était franchie. Alors, il y a eu d'autres génocides par le passé, ça on le sait, même dans un passé récent, mais ce qui s'est passé à Gaza, ça a été quand même une mise de côté totale du droit international. Et aujourd'hui, le monde multipolaire que l'on pouvait un peu appeler de nos voeux, à savoir un monde un peu plus basé sur le compromis et sur la bonne entente, donne au contraire une foire d'empoigne terrible, où les États-Unis, l'impérialisme dominant, et dans une logique de conquête et de spoliation, pour s'approprier toutes les ressources qu'il estime nécessaires à sa survie, se faisant manipuler ou en étroite collaboration avec l'État israélien, qui lui a ses propres objectifs dans la région. Disons qu'on ne peut plus aujourd'hui parler d'Israël et des États-Unis en matière de géopolitique, il faut parler d'axe israélo-US. Voilà. L'axe israélo-US est le premier responsable du génocide à Gaza. Et il est aujourd'hui le premier responsable d'une explosion de violence qui touche et le Liban et l'Iran, et qui va déferler encore sur d'autres régions. Alors, tout d'abord, je voudrais citer un fait. C'est que, plutôt que de partir dans des considérations de géopolitique, ce qui n'est pas trop mon métier, je voudrais citer deux faits. C'est que il y a un profond racisme dans les relations au niveau international, de la part des États-Unis et d'Israël avec les autres pays. Donc, on peut estimer qu'il y a eu une mauvaise évaluation de leur part sur l'évolution de ce conflit. Il faut d'abord bien comprendre que les objectifs des États-Unis et d'Israël ne sont pas strictement identiques, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est une logique de spoliation et d'accaparement. Contrôler le détroit d'Ormuz, contrôler toutes les ressources pétrolières, y compris éventuellement jusqu'en Asie centrale. Dans le cas d'Israël, ce qu'ils veulent, c'est un chaos généralisé. C'est tout. Ce qu'ils veulent, c'est une région divisée en de multiples entités qui se font la guerre, sur laquelle ils pourront bombarder et taper comme ils voudront à tout moment et se comporteront, comme ils le disent eux-mêmes dans leur théorie de guerre, en chien fou. C'est-à-dire que toute attaque contre l'État israélien déclenche une telle violence que ça devrait être dissuasif. Et ce que les Israéliens ont réussi finalement ont poussé les États-Unis à pratiquer, c'est ce qu'ils appellent la tactique d'Ahirai, qui est le nom d'un quartier de Beyrouth, où il y a déjà pas mal d'années, les Israéliens ont mis au point une tactique de guerre qui est qu'on fait payer à la population civile son soutien à une organisation de résistance. Donc cette tactique, ils l'ont appliquée à Gaza, et maintenant ils l'appliquent au Liban à nouveau avec des bombardements renouvelés, et ils veulent l'appliquer à l'Iran. Donc à l'Iran, il n'y a aucune limite, il n'y a aucun interdit, on attaque les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les moyens de survie de la population et tout. C'est leur logique. Bon. Alors quand je parle d'approche totalement raciste, moi, c'est un peu ma partie dans le domaine professionnel. Je me suis beaucoup préoccupé des questions de communication, d'automatisme, avec une informatique très particulière et tout. Et il y a un fait qui s'est produit il y a quelques temps, c'est qu'il y a un drone de fabrication israélienne qui s'appelle Hermes 900, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a un système très, très éprouvé, très, très performant, sur lesquels les Israéliens, forcément, ont beaucoup, beaucoup travaillé, et qui est un drone d'observation. Ce drone a été capturé en vol par les Iraniens. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à interférer les communications, à prendre la main sur le drone et à le faire atterrir.
Là, maintenant, récemment?
Oui, c'est arrivé récemment. Et donc, il y a des photos qui circulent. Enfin, c'est un fait tout à fait établi, revendiqué par l'armée, par le corps des gardiens de la révolution en Iran, où on voit effectivement ce modèle de drone prêt à être désossé et à être étudié de près par l'ensemble des ingénieurs spécialistes du domaine. Donc, c'est Je dirais que, sachant comment ce genre de choses peuvent être faites, je dis que c'est une performance technique. C'est une véritable performance technique. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal d'ingénieurs russes. J'étais toujours très admiratif de leurs capacités. Mais là, ce qu'ont fait les ingénieurs iraniens, je trouve que c'est encore plus fort.
Ils ont très, très haut niveau.
Oui. Voilà. Oui, et c'est aussi une technicité qui est acquise dans des contextes de pénurie, etc., qui les oblige finalement à être très autonomes et à avoir beaucoup d'imagination et une très très grande, très, très grande autonomie. Alors, bon, il y a encore plus longtemps, en 2007, il y avait un premier drone qui avait été capturé et qui venait d'Afghanistan à l'époque où les États-Unis étaient installés en Afghanistan, donc à l'est de l'Iran. Deux ingénieurs avaient intercepté un drone et l'avait fait tomber dans un champ, et effectivement après il a été exploité. Et la réflexion d'un général américain à l'époque, ça avait été de dire, c'est comme si on avait jeté une Maserati dans un champ. Sous-entendu, il ne saurait pas quoi en faire. Donc c'est pas la peine de s'en inquiéter. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, les Israéliens et les États-Unis, Israël et les États-Unis, sont victimes de leur approche totalement méprisante, leur complexe suprématiste, leur racisme à la fois. Vraiment, au fond, c'est leur racisme. C'est ça qui va leur amener énormément de déboires. Mmh. Et sur le plan purement technique aussi, là, il est clair aujourd'hui que l'armée iranienne exploite les systèmes de positionnement fournis par les Chinois. C'est le réseau Baidu, qui est le réseau concurrent GPS, que je connais un peu pour avoir enseigné sur ces questions de systèmes de positionnement par satellite. Et Baidu fournit une qualité dans la précision utilisée par les missiles iraniens qui explique le degré de performance qu'ils atteignent aujourd'hui pour frapper soit les bases américaines, soit l'État israélien lui-même. Alors, bon, voilà, c'est qu'il y aura beaucoup de rebondissements autour de ça. C'est terrible du point de vue de la Palestine. Il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas attendre de solution pour la Palestine venant d'un conflit de plus haut niveau. Ces conflits de plus haut niveau n'amènent que des situations pires encore. Et dans le cas de Gaza, Gaza maintenant est totalement occulté. Occulté.
Oui,
hein,
on n'en parle pas.
On n'en parle encore moins que les jours qui ont précédé la guerre. Gaza est verrouillé. Gaza est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus Rafah. Il n'y a même plus de camions humanitaires, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les Palestiniens de Gaza commencent à craindre une nouvelle famine. Voilà, ça c'est l'effet sur Gaza. Dès qu'il y a un conflit à l'extérieur, de toute façon, les Israéliens pratiquent ce genre de choses. Hein. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. C'est qu'il y a un conflit avec l'Irak, il y a ce qu'on veut, on ferme tout. Donc tout est verrouillé. Donc pour Gaza, c'est absolument terrible. Alors donc, raison de plus de continuer à en parler. Mm-hmm. Alors je vais arrêter là pour la partie sur la partie contextuelle. Et puis après, peut-être on va aborder un peu la suite. Oui.
Alors, parlons un petit peu des mouvements de solidarité et la répression à l'échelle internationale.
Oui, oui, oui. Alors, vraiment, en fait, on ne change pas réellement de contexte parce que, autant il peut y avoir une situation de guerre déclarée comme celle qu'on vient d'aborder, autant il y a d'autres batailles en cours. Et il y a la guerre à 36 000 formes. Et un aspect de cette guerre que nous subissons, à laquelle on essaye de réagir au mieux, c'est la guerre contre le mouvement de solidarité. Mmh. Alors, cette guerre contre le mouvement de solidarité, elle est ancienne parce qu'il y a eu beaucoup de cas de répression contre le mouvement BDS depuis qu'il existe. Parce que là, on touchait à quelque chose d'extrêmement sensible.
Tu peux nous rappeler l'année de début de ce mouvement ?
BDS, oh, ça remonte bien à 2005 ou 2006. Je pense, oui. Et puis c'est une initiative proprement palestinienne. Et c'est... Bon, BDS n'a pas... La campagne boycott, désinvestissement et sanctions n'a pas besoin d'une grosse infrastructure pour exister. C'est un état d'esprit. BDS, c'est très facile d'avoir ça dans la tête et d'avoir tous les réflexes nécessaires.
Et tout le monde peut en être acteur.
Tout le monde en est... Oui, tout le monde peut, en être acteur. Donc... la répression du mouvement de solidarité donc, n'est pas une chose nouvelle, mais là, on sentait quand même venir des choses depuis le début du génocide à Gaza. C'est qu'il y a eu des grandes initiatives aux États-Unis pour expliquer publiquement, dans des forums, etc., des conférences, qu'il fallait interdire les réseaux sociaux aux gens trop jeunes. Et ce qui était dit explicitement, c'était l'ancienne conseillère de Barack Obama qui avait fait cette déclaration. Je ne me souviens plus de son nom, hein, mais c'était quand même pas n'importe qui. Elle disait, bon, TikTok et toutes ces vidéos que l'on voit et tout, ça met de la confusion dans la tête des jeunes, parce qu'ils commencent à penser holocauste, génocide, à mélanger un peu les choses et à faire des rapports qu'ils ne devraient pas faire. Bon, les jeunes qui regardent ces vidéos interprètent les choses comme il faut et réagissent avec un sentiment profondément humain et ils sont scandalisés et choqués. Donc, il faut couper. Il faut couper l'information et on va prétendre qu'il faut protéger la jeunesse des États-Unis et interdire les réseaux sociaux. Ça a été repris par l'inévitable Hillary Clinton, qui est toujours au taquet hein, pour défendre les intérêts de n'importe quel lobby. J'évite de dire d'autres choses sur Hillary Clinton, mais bon, vraiment, c'est ce type de personnages quoi, qui ont lancé cette campagne. Et cette campagne a été reprise en Australie et elle a été reprise d'une certaine manière en France, puisqu'il y a une loi apparemment qui a été votée, mais il n'y a pas eu de décret d'application encore pour interdire donc au moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux. Ce qui se dessine à travers tout ça, parce que ce n'est pas forcément applicable, hein, et puis interdire les réseaux sociaux aux jeunes, c'est les mettre en situation de fragilité, parce que beaucoup se retrouveraient totalement isolés.
On a vu ça pendant le Covid.
Pendant le Covid, bien sûr, oui. Là, vraiment, ce serait très risqué, ce serait même assez criminel. Donc, ce qui se profile à travers ça, c'est plutôt l'établissement d'un passeport numérique qui fait que d'ici quelques années, chacun d'entre nous aura besoin d'une identification spéciale pour avoir accès à Internet. Voilà, donc ce sera un peu l'aboutissement de tout ça, le passeport numérique, où il y aura les dernières données confidentielles, à part comme notre âge, qui seront à ce moment-là diffusées. Le contexte répressif du mouvement de solidarité, aujourd'hui, c'est ça. Et puis, donc, l'interdiction des réseaux, mais c'est aussi, à des échelles nationales, beaucoup d'initiatives qui consistent à, dans le cas de la France, par exemple, à demander aux autorités préfectorales de surveiller tout ce qui est publié, tout ce qui est dit sur la Palestine, de faire des enquêtes, de déposer éventuellement des plaintes. Enfin, bon, il y a toute une machine qui se met en route. On va en parler un petit peu au niveau européen. Alors, bon, peut-être je pourrais... oui, alors, sur le contexte général répressif, je vais m'arrêter là pour dire un petit peu quelle est l'ambiance au...
Est-ce que tu veux parler des cas particuliers, des personnes ?
Oui. Donc, il y a un cas dont il faut absolument parler, c'est celui de Francesca Albanese. Puisque Francesca Albanese, qui est la responsable du Comité des Nations Unies pour les droits humains dans les territoires palestiniens, et qui est connue pour son excellent travail, ses rapports, ses prises de position et qui a fait un travail de dénonciation vraiment très important sur le génocide, elle est attaquée. Elle est attaquée, et là, on attaque une figure de proue, vraiment. Donc, on cherche à faire un exemple, et puis à frapper très fort. Alors, elle était déjà extrêmement impactée par toutes les mesures de rétorsion qu'elle a subies en tant que participante au tribunal pénal international, je pense. Par exemple, elle n'a plus de compte bancaire, elle n'a plus l'accès à son compte carte bleue. Ça lui empoisonne la vie, quoi. C'est que tout est fait pour rendre les choses difficiles. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Mais là, on a franchi un nouveau cap, puisque à l'occasion d'une conférence organisée par Al Jazeera, on lui a reproché d'avoir soi-disant dit que l'humanité dans son ensemble avait un seul ennemi, que c'était Israël. Un ennemi commun, quoi. En fait, tout ça a été totalement transformé, biaisé, ça a été mensonger, et ça a été repris au niveau français par une députée qui s'appelle Yadan, sinistre personnage dont on parlera tout à l'heure quand on abordera la question française. Et ce qui est quand même terrible, c'est que l'accusation, qui était fausse, qui était vraiment une calomnie, a été reprise d'emblée par le ministre français des Affaires étrangères, bon, qui s'appelle Barrot. Et donc lui-même, devant l'Assemblée nationale, a fait une sortie où il disait qu'il allait demander la démission de Francesca Albanese. Alors ça, déjà, c'est complètement illégal, parce qu'un gouvernement n'intervient pas pour demander la démission de responsables des Nations Unies, qui sont nommé dans un cadre complètement différent. Mais aussi, il a repris à son compte une information calomnieuse. Voilà. Alors, il y a une organisation qui s'appelle Juris, qui a réagi. Jurdi, c'est ça. L'Association des juristes pour le respect du droit international, une association française, qui a réagi très fort et qui a fait un signalement au procureur de la République, qui éventuellement peut donner un dépôt de plainte. Bon, dans le système français, on voit quasiment jamais un ministre démissionner comme ça brutalement pour des faits aussi condamnables. C'est plutôt à l'occasion d'un remaniement ministériel qu'il peut être mis sur la touche. Mais il assume et il persiste. Donc c'est un peu le système français. Hein. Mais c'est quand même terrible de voir qu'une personnalité aussi respectable que Francesca Albanese se retrouve mise en cause de façon mensongère au plus haut niveau de l'État français. Bon, voilà pour le cas de Francesca Albanese.
Est-ce que tu peux parler d'autres individus dans les situations peut-être ailleurs, les situations un peu similaires ?
Oui. Alors, Francesca Albanese disait que c'était bien d'en parler parce que de toute façon, c'est une référence. Hein, vraiment, tout le monde qui est impliqué dans la mobilisation contre le génocide connaît et respecte Francesca Albanese. Alors, il y a des multitudes d'autres cas, mais si on veut d'abord rester au niveau des principaux protagonistes, il y a le cas des États-Unis. Donc, dans le cas des États-Unis, la première préoccupation de Trump arrivé au pouvoir, ce qui avait été déjà entamé par Biden avant que les démocrates ne perdent les élections, c'était de casser le mouvement de solidarité qui se développait dans les universités. Alors ça a été fait avec des pressions d'ordre économique sur les universités elles-mêmes, qui sont de véritables entreprises, qui sont cotées en bourse, qui ont besoin de faire de l'argent, en plus de faire payer des droits exorbitants aux étudiants. Mais donc il fallait déjà casser ce mouvement. Alors pour casser ce mouvement, on s'est attaqué à des responsables du mouvement de solidarité, par exemple dans l'université Columbia de New York, très connu.
Là, on est en 2024,
C'est 2024, oui, parce que 2023, le mouvement est monté en puissance au moment où le génocide s'est déclenché. Et c'est à partir de 2024 qu'il y a eu vraiment des réactions au niveau institutionnel aux États-Unis. Alors, y a un cas qui commence à être un petit peu connu aux États-Unis parce que il s'est trouvé qu'un comité de solidarité s'est monté sur ce cas. Il y a beaucoup d'autres cas qui sont moins connus. Mais il y a une Palestinienne qui s'appelle Leka Cordia, qui est originaire de la Cisjordanie, qui était venue aux États-Unis avec un visa touristique qu'elle avait sur place transformé en visa pour faire des études, donc à l'Université de Columbia. Elle était parmi les animateurs de la mobilisation. À un moment donné, elle a fait une erreur dans les délais de renouvellement de son visa pour étudier. Donc, elle a été prise à ce moment-là par l'ICIE. L'ICIE, c'est la police de l'immigration, de sinistre mémoire. Ceux qui ont tué deux personnes à Minneapolis, là, récemment. Alors, il faut aussi rappeler que l'ICIE, c'est une structure qui a été développée à l'époque de Obama. C'est Obama. Hein. C'est Obama, propre sur lui et tout. Obama avait battu des records absolus en matière d'expulsion de migrants hispaniques. Après, il y en a eu d'autres, mais Obama a fait des performances en la matière. Et Obama a démultiplié les moyens de cette police de l'immigration, qui aujourd'hui est renforcée par Trump, qui en fait l'usage qu'on connaît. Mais Leka Cordia est tombée dans leurs pattes, dans leurs griffes. Et à partir de là, les gens sont comme dans un trou noir. Donc, ils disparaissent. Alors, elle, on a réussi à la situer. Ça fait maintenant plus d'un an qu'elle est emprisonnée. Plusieurs juges fédéraux, je pense, ont demandé sa mise en liberté avec une caution. Ça a été refusé par le département de la sécurité intérieure. Alors, le département de la sécurité intérieure, c'est vraiment une structure dominante dans le pouvoir américain, le pouvoir US aujourd'hui. Ça veut dire que dans un pays de 240 millions d'habitants, ils s'acharnent sur elle en tant qu'individu.
Elle a quel âge environ, cette jeune femme?
Elle doit avoir 25-26 ans, je pense.
Oui, elle est toute jeune.
Oui, elle est jeune, oui. Oui. Et à un moment donné, elle a eu un grave problème de santé, elle a été hospitalisée. Personne n'arrivait à savoir dans quel hôpital elle se trouvait. Finalement, ça a été plus ou moins identifié parce qu'il y a un personnel hospitalier qui a donné l'information à l'extérieur. Mais bon, ce cas de l'ECA Cordia est choquant et représentatif de comment on peut attaquer les individus aujourd'hui aux États-Unis. Alors, je vais aller très vite maintenant sur un peu les cas en Europe. Parce que, bon, après, on quitte les États-Unis, on arrive en Europe. En Europe, il y a le cas de l'Allemagne que l'on connaît assez bien aussi, où la police est extrêmement répressive et en plus noyautée par l'extrême droite. La particularité de l'Allemagne, c'est qu'ils n'ont jamais réglé leur compte correctement avec tout leur passé génocidaire. Et leur passé génocidaire remonte à avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des cas de génocide fameux en Afrique australe, par des corps expéditionnaires allemands, etc. Enfin bon, c'est que la question du génocide, c'est il y a une antériorité dans le pouvoir allemand fortement militarisé. Et il n'y a jamais eu réellement de compte réglé avec ce passé. Et aujourd'hui, la défense d'Israël pour le pouvoir allemand est censée les absoudre de tout. Donc ils se retrouvent finalement à approuver un génocide, alors qu'ils les pratiquaient dans le passé. Enfin, il y a une ambiguïté, il y a une confusion qui rend les choses extrêmement difficiles pour le mouvement de solidarité. Toute la gauche politique est absolument pro-israélienne en Allemagne. Et la particularité allemande, c'est que quand on choisit une voie politique, quelle qu'elle soit, on n'en change pas et on va dans le mur. On sait qu'on va dans le mur, mais on y va quand même. Ça s'appelle le jusqu'au boutisme. Et, à mon avis, c'est une particularité du comportement politique en Allemagne. Et, alors bon, ça c'est pour l'Allemagne. La Suisse, propre sur elle aussi, hein, si parfaite. Ils ont trouvé moyen d'arrêter Ali Abunima, qui est le responsable d'édition de Electronic Intifada. C'était en janvier 2025. Donc, il a été interpellé, gardé pendant 2 jours, je pense, puis finalement expulsé. Alors, parce qu'il était invité à une réunion publique à Zurich pour parler de la Palestine. Alors ça, la Suisse ne voulait pas en entendre parler. La Suisse vend des armes, la Suisse, etc. Enfin bon, on imagine tout ce qu'il y a derrière. Ali Abunima ne s'est pas laissé faire et il a déposé plainte une fois qu'il était rentré chez lui. Et finalement, la justice suisse lui a donné raison. Et la responsable fédérale qui était à l'origine de son arrestation a dû démissionner. Ça, c'est tout récent. Ouais, donc bon, ça montre bien qu'il faut pas accepter, quoi. Faut se battre, faut utiliser tous les moyens légaux mis à disposition. Vraiment, faut pas céder. Ensuite, je termine. Bon, la Grèce a arrêté et puis expulsé un responsable de Samidoun, qui est une organisation palestinienne de soutien aux prisonniers. La Belgique et d'autres, j'en oublie. Hein. Mais cette vague répressive, elle est un peu généralisée en Europe. Voilà pour la partie européenne. Alors tout à l'heure, je vais développer, après l'intermède musical, hein, je vais développer un peu sur le mouvement de solidarité en Grande-Bretagne, qui a des particularités importantes, et le cas de Palestine Action, puis ensuite on développera sur les attaques en France.
Claude, tu as choisi un morceau de musique. Peux-tu nous en dire un mot, s'il te plaît, avant l'écoute ?
Oui, alors c'est... C'est un musicien, donc c'est un musicien de oud. Issa Boulos est son nom. C'est un compositeur palestino-américain renommé, connu, virtuose du oud, qui est né à Jérusalem en 1968. Et il mélange les instruments arabes traditionnels avec une orchestration un petit peu occidentale. Donc il fait un travail de recherche. Il a beaucoup documenté aussi l'histoire de la musique palestinienne, y compris les chants de résistance. Et il enseigne au Harper College.
عالسفح أعلى من البحر عالسفح أعلى من السروب ناموا خافوا عالسفح أعلى من البحر عالسفح أعلى من السرو ناموا خافوا وطار الحمام طار الحمام وطار الحمام عالسفح أعلى من البحر عالسفح أعلى من السرو ناموا خافوا عالسفح أعلى من البحر عالسفح أعلى من السرو ناموا خافوا وطار الحمام طار الحمام وطار الحمام طار الحمام راحوا ما رشوا عورق الميري حان ساميهم راحوا برمل السماء ورد لعت متهم راحوا ما رشوا عورق المي ريحان ساميهم راحوا ما زرعوا برمل السماء ورد لعت متهم ناموا أعلى من البحر أعلى من السرو عالسفح الكون طار الحمام طار الحمام طار الحمام عالسفح أعلى من البحر عالسفح أعلى من السرو ناموا خافوا عالسفح أعلى من البحر عالسفح أعلى من السرو ناموا خافوا وطار الحمام طار الحمام طار الحمام ويا نايمين عآخر الأرض فينا سلام الله سلام الله سلام الله
Là, nous avons écouté Issa Boulos. Alors, Claude, maintenant, est-ce que tu peux évoquer le mouvement de solidarité qui a été réprimé en Grande-Bretagne, le cas de Palestine Action?
Oui, oui, très bien. Oui, oui. Le cas de Palestine Action, je souhaitais en parler de manière un petit peu précise parce qu'il est exemplaire à plus d'un titre. Nous savons hein, que le mouvement de solidarité en Grande-Bretagne a été puissant au début du génocide. On a assisté à des manifestations massives à Londres, où il y avait presque 1 million de personnes certains jours. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et bon, ce qui forcément est sorti d'un mouvement aussi massif, c'est des formes d'organisation et des formes d'action originales. Quand vous avez une population très importante qui est prise dans un mouvement comme celui-là, l'action et la mobilisation va prendre beaucoup plus de forme si le mouvement est plus réduit. Donc, Palestine Action, c'est un moment qui est arrivé où les gens ont voulu passer à un autre type d'activité d'action, hein, en fait.
Et ils ont d'action non violente.
D'action non violente. Alors ça, effectivement, on va bien le préciser. Mais ils ont fait des choses que moi, je trouve admirables, en se mettant en situation de danger réellement, en s'en prenant à une usine Elbit Systems installée en Angleterre et qui produit des drones qui servent à terroriser ou à tuer les gens à Gaza. Donc, un groupe, je ne veux pas dire commando, parce que ce n'est pas, c'est pas une logique militaire, mais un groupe de militants est rentré à l'intérieur et a donc détruit une partie des équipements. Pas énormément, forcément, parce qu'ils étaient un petit groupe dans une usine importante. Donc, ils sont venus avec des instruments, marteaux et compagnie, qui permettaient de casser des vitres, de casser des systèmes électroniques qui étaient exposés dans des armoires, des choses comme ça. Il y a un peu des vidéos qui ont fini par sortir. Mais il n'y a eu aucun affrontement avec le personnel de sécurité. Le personnel de sécurité est intervenu au bout d'un moment, mais c'est lui qui a déclenché les violences. Et ça a été établi dans le...
À partir des vidéos.
À partir des vidéos. Et il y a même des vidéos qui avaient été transformées et le jury n'a pas accepté ce genre de pratique. Avant de revenir au procès lui-même, il y a eu deux actions comme ça importantes dans une usine Elbit et puis aussi dans une base aérienne. Une base aérienne. Où ils sont rentrés avec des deux roues, etc. Ils ont circulé, ils ont peinture rouge des avions. Ils ont un peu abîmé aussi, je crois, certains systèmes d'atterrissage qui étaient exposés. Mais en tout cas, ça s'est limité à ça. Et ceux qui étaient rentrés dans Elbit System, pour la plupart ont été interpellés et ensuite sont rentrés dans une grève de la faim. Alors, la grève de la faim, qui a été suivie par 8 prisonniers, a été la plus importante grève de la faim depuis la lutte des Irlandais d'Irlande du Nord pour leur indépendance et leur attachement à l'Irlande, où il y avait une dizaine de grévistes de la faim qui étaient morts à l'époque de Thatcher. Donc là, ils étaient 8. Ils se sont mis réellement en danger puisqu'ils sont restés en grève de la faim quasiment 2 mois. Le résultat, il y a eu une grosse mobilisation autour de ça qui a monté en puissance progressivement. Le gouvernement Starmer, travailliste, voulait absolument pas qu'on en parle et voulait absolument faire un exemple. Donc, en même temps, il a demandé la dissolution de Palestine Action sous prétexte que c'était une organisation terroriste. Ouais. Alors, il y a eu... Alors, ça s'est arrêté dans la mesure où la grève de la faim s'est terminée. Et Elbit System a dû... Il y a certains programmes qui ont été annulés entre Elbit System et l'armée britannique. Donc, ça a été quand même un résultat important et ça a été un succès. Mais à un prix quand même très dur, parce que ça impacte forcément la santé des grévistes de la faim après 2 mois. Et ça montre aussi la détermination qu'il peut y avoir dans le mouvement de solidarité.
Mais pendant tout ce temps que les personnes étaient arrêtées et qui avaient fait le grève de la faim, il y a eu beaucoup de manifestations très régulières. Et donc les personnes étaient, on a eu les milliers de personnes arrêtées, les personnes âgées, en situation de handicap. Enfin, c'était et la police a fait son travail, mais c'était évident que c'était pas les terroristes. Enfin, c'était absolument extraordinairement ridicule.
Oui. Le gouvernement britannique s'est totalement déconsidéré, quoi, avec ce genre de pratique. La police s'est pas comportée de manière aussi violente qu'en Allemagne, mais il y a quand même eu un peu des scènes de violence et puis appliquées sur des personnes âgées. Enfin, ça a été extrêmement choquant. Il y a des personnalités aussi qui ont réussi à rendre visite aux grévistes de la faim. Au début, c'était très difficile. Ils étaient isolés, ils étaient assez maltraités. Et il y avait des cas de négligence médicale même dans le suivi de ces grévistes de la faim. Alors en même temps, il y a eu un procès pour les militants qui étaient rentrés dans la base aérienne. Ils étaient 6. Et ce procès, qui est un peu l'équivalent des assises en France où vous avez un jury, donc c'était quand même une juridiction importante, a décidé de les relaxer et d'annuler la décision de dissolution de Palestine Action en disant qu'elle n'était pas justifiée. C'est un jury qui a décidé ça.
Et Stam a essayé de changer la loi pour qu'il n'y ait pas de jury.
Pour qu'il n'y ait plus de jury. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que c'est le réflexe, c'est que s'il y a quelque chose qui pose problème, à ce moment-là, il faut enlever la chose qui pose problème et il faut couper l'information. Enfin, c'est toujours le même type de solutions qui sont préconisées. C'est-à-dire, vous avez un jury qui vous gêne, vous supprimez les jurys, quoi. Voilà. Donc, moi je tenais à relever ce cas parce que ça montre la détermination du mouvement de solidarité. Et cette détermination représentée par le comportement absolument exemplaire de ces grévistes de la faim, beaucoup de gens sont capables. Et ça montre que pour la Palestine, on peut aller très loin et que ce n'est pas une passade, ce n'est pas une mobilisation parmi d'autres qui va s'éteindre au bout d'un moment, mais qui a vraiment quelque chose de profondément enraciné et qui donne une forte, forte motivation. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Le mouvement de solidarité peut aller loin dans la manière de se mobiliser. Et c'est ce qu'ont fait les gens en Grande-Bretagne.
Est-ce qu'on peut parler maintenant, Claude, des attaques en France? Il y a la loi Yadon, il y a la circulaire Dupont-Moretti.
Oui. Alors, sur les cas en France, alors j'ai un peu organisé les choses en parlant de la loi Yadon puis la circulaire Dupont-Moretti, qui ont un caractère un peu général. Et ensuite, les attaques sur les organisations et ensuite sur quelques cas individuels. Mais la circulaire Dupond-Moretti, ça a été la première initiative du gouvernement français après le début du génocide. Dupond-Moretti était ministre de la Justice. Il a produit une circulaire à destination des préfets disant toute parole antisémite, toute attaque antisémite doit être soumis à une enquête et doit faire l'objet de poursuites judiciaires. Alors, ça vient de loin, cette attaque, parce que l'accusation principale, ce sera apologie du terrorisme. Mais l'apologie du terrorisme, historiquement, faisait partie de la loi sur la presse. Donc, ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est le gouvernement socialiste qui a fait ça. Hein, c'est l'époque de Hollande. Hein, enfin, bon... Les socialistes, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais ils ont la trahison dans le sang. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont sorti ce dispositif, cette accusation donc d'apologie du terrorisme de la loi de la presse, pour la mettre dans le code pénal, ce qui permet de condamner beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Ça a été la préparation en amont. Donc Dupond-Moretti, maintenant, s'est appuyé là-dessus. Et au moment où il a publié sa circulaire, c'était donc courant du mois d'octobre, rapidement après le 7 octobre, en l'espace de même pas un an, il y a eu près de 700 enquêtes initiées par les préfectures. Sur les 700 enquêtes, il y en a 300 à peu près qui ont donné lieu à des convocations, plus de 300. Et là-dessus, il y en a 180 ou 190 qui ont donné lieu à vraiment des plaintes prévoyant des procès, etc. Quoi. Ça, c'était donc les chiffres fin de 2014. Ça a continué naturellement et fin 2015, ça n'a fait que se développer. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais ils sont assez astronomiques. Bon, donc c'est un phénomène large et c'est un phénomène de masse et qui est l'expression de la connivence du pouvoir politique en France avec l'État génocidaire en Palestine occupée. Là, c'est même pas de l'indifférence, c'est vraiment de la connivence. C'est que on ouvre un front contre le mouvement de solidarité. On introduit finalement le mouvement de solidarité, on le force à rentrer un peu en situation de guerre et à devoir se défendre. Donc c'est un autre front que celui du Moyen-Orient, qui est certainement moins violent et moins impactant, c'est sûr, mais il faut le prendre comme tel. C'est également une offensive. Alors, Dupond-Moretti, ce qu'il a enclenché comme mécanisme, c'est une chose. Ce qu'on a vu récemment apparaître, c'est un peu le pompon. C'est le projet de loi Yadon. Alors Yadon, c'est une députée qui représente les Français à l'étranger, ultra-sioniste, qui n'a absolument aucune limite, extrêmement agressive. Elle a conçu donc un projet de loi, mais ce n'est pas elle qui l'a conçu, enfin bon, il y a du monde derrière, qui est de faire un amalgame complet entre antisémitisme et antisionisme. Alors sur ce projet de loi qui devait normalement être déjà débattu au Parlement au mois de janvier, puisqu'il était même passé dans la commission des lois, il avait passé le cap de la commission des lois grâce à l'abstention des représentants du Parti socialiste. Voilà, toujours, hein, c'est toujours au moment où il faut, ils sont là pour faire le sale travail. Donc ça passe la commission des lois et ça arrive sur la table des projets au Parlement. Alors là, il y avait en même temps la loi de finances qui était très compliquée, qui prenait du temps, avec laquelle il a fallu le 49-3. Enfin bon, donc ça a pris un peu de retard, mais aussi peut-être que le moment n'était pas exactement adéquat, que ça a été une décision politique à ce moment-là de sortir cette loi du programme du Parlement, et de la laisser un peu tomber de côté. Ce qui fait qu'on, même en surveillant l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, je n'arrivais pas à savoir quand précisément cette loi devait être discutée. Donc on a eu du nouveau récemment, c'est après le dîner du CRIF, qui est un événement politique important en France, où tout le monde va faire acte d'allégeance. Et là, bon, c'est intéressant à suivre, hein, parce que le cornu Premier ministre a été prendre l'engagement apparemment que la loi serait débattue encore au mois d'avril au Parlement. Alors cette loi, elle est extrêmement dommageable, parce que, bon, déjà, il y a une assimilation complète. Tout ce qui est critique de l'État d'Israël, c'est critique d'une nation, critique d'une communauté, critique antisémite, inscrit dans la loi. L'article 2, alors là, c'est ubuesque. C'est qu'il traite de la négation du droit à l'existence des États. Alors au début, dans le premier projet, c'était uniquement l'État d'Israël dont il était question. Et là, bon, on a jugé plus judicieux, finalement, d'étendre ça à tous les États. Alors pour ça, il fallait aussi un avis du Conseil d'État, ce qui peut expliquer en partie le retard qui a été pris pour que ce soit vraiment présenté au vote au Parlement. Mais tel que c'est rédigé, si aujourd'hui vous dites, je sais pas, le Liechtenstein, par exemple, ou le Luxembourg, ou Andorre, par exemple, la principauté d'Andorre, ou Monaco, vous dites, ce sont des places financières qui servent à blanchir de l'argent ou à n'importe quoi, ça ne mérite pas d'exister en tant qu'État, et ben vous risquez 7 ans de prison et jusqu'à peut-être 75 000 euros d'amende, je crois, un truc comme ça. Donc ça va très loin. C'est-à-dire que l'objectif, par cette généralisation, c'est de couper court à toute remise en cause de la politique israélienne qui serait vue comme une remise en cause de cet État de type colonial à exister. Et il y a un article 4 qui condamne absolument tout parallèle entre sionisme, nazisme, génocide, holocauste et tout. Alors, moi, je suis très clair par rapport à ça, hein, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire. Je dis que la comparaison sionisme-nazisme n'est strictement d'aucune utilité. Et elle ne fait qu'amener de la confusion. Et que les choses sont suffisamment horribles en soi pour ne pas avoir besoin de les mettre en relief avec en faisant référence à des événements historiques aussi horribles. Ça ne fait qu'ajouter de la confusion dans la mesure où mettre le nazisme sur un piédestal, enfin, vraiment au sommet d'une pyramide, et que tout ce qui se passe aujourd'hui, il y aurait toujours un élément de comparaison avec le nazisme qui serait supposé avoir été pire. Non, c'est pas la bonne démarche. Il faut prendre ces phénomènes chacun pour soi, sans vouloir forcément les mettre en parallèle. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler peut-être des attaques contre les organisations?
Oui, très bien, oui, parce que sur la loi, il y a danger, j'ai été un petit peu long. Mais alors, donc maintenant, je reviens sur les organisations. Là, je vais aller un petit peu vite. Mais bon, on s'attaque à des individus, mais aussi des organisations. Alors, l'UJFP, bon, que vous êtes sans doute nombreux à connaître, hein, l'Union juive française pour la paix, elle est l'objet d'attaques depuis longtemps. Mais là, il y a une offensive assez concertée contre l'UJFP, parmi d'autres, mais qui a été déclenchée par le journal Le Point. Donc, c'est assez fréquent qu'il y ait ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'il y a un article de presse qui, finalement, met le feu aux poudres. Mais c'est concerté. Hein. Bon, et après, ça, on fait un buzz autour de ça. Et puis, d'un coup, vous avez des associations qui vont se porter partie civile. Des associations sionistes de petite taille, il y en a pléthore. Et alors, assez curieusement, la plupart ont l'air d'avoir l'habilitation qu'il faut pour pouvoir se porter partie civile. Ce qu'on ne peut pas faire automatiquement. Si vous êtes dans un club de boulistes, ce n'est pas vous qui allez pouvoir déposer plainte, par exemple. Vous n'avez pas le statut qu'il faut pour ça. Mais là, ça devient apparemment extrêmement facile. Donc, l'UJFP est accusé de financer le Hamas. C'est des aberrations. Hein. C'est, même de dire ça, j'ai honte. Quoi. Ce sont des gens très engagés qui font un travail important et qui sont présents à Gaza, qui financent des projets de survie à Gaza depuis 2 ans.
L'aide humanitaire.
L'aide humanitaire. Et puis, bon, vraiment, c'est vraiment honteux. Bon. Donc, l'UJFP est attaqué. Urgence Palestine est attaquée. Urgence Palestine est aussi attaquée à travers un de ses animateurs qui est Omar Al-Soumi, bon, qui va passer en procès prochainement pour apologie du terrorisme et à qui on a coupé les vivres, c'est-à-dire qu'il n'a plus accès à ses avoirs. Plus de comptes bancaires, plus de cartes bancaires, etc. Et il a une famille, 2 enfants. Enfin, vous imaginez un peu la situation compliquée dans laquelle ça le met. Mais Urgence Palestine, il y a une demande explicite du gouvernement pour dissoudre cette association, qui est une association transverse, hein, qui fédère beaucoup de choses et qui a un rôle important dans la mobilisation. Bon, après, il y a Euro-Palestine, mais qui est attaqué par l'intermédiaire de son animatrice principale, qui est Olivia Zemmour, qui, elle, a un long passé de procès, d'attaque pour la campagne BDS et tout. Enfin bon, qui a une grande pratique, hélas, pour elle, en la matière. Et là, aujourd'hui, bon, elle atteint un jugement pour aussi des déclarations publiques, etc., ou des articles publiés sur leur site.
Donc là, on voit l'être se serrer vraiment de plus en plus.
Là, il y a vraiment une offensive à grande échelle, concertée.
Et puis c'est stratégique, en plus.
Tout à fait.
C'est bien bâti.
Casser la mobilisation. Bon, il y a eu le cas de Palestine Vaincre qui a été dissous et qui est à Toulouse, qui s'est bien battu devant le Conseil d'État et tout, mais le jugement sur le fond a été en défaveur de Palestine Vaincre qui a été fermé, qui a été interdit. Et alors maintenant, sur les cas individuels, parce que bon, là, il faut quand même faire un petit peu vite, je vais les citer de tête et ce ne sera pas forcément toujours dans les plus fins détails. Mais j'ai eu l'occasion récemment d'aller à Poitiers. Alors Poitiers, il y a un collectif, une organisation de soutien de la Palestine, un peu indépendante et tout, qui fait un bon travail comme font toutes ces associations, toutes ces organisations. L'animatrice principale, et là je donne son nom parce que j'ai son autorisation, qui s'appelle Sylvette Rougier, elle est accusée d'apologie du terrorisme et son procès est prévu prochainement, peut-être au mois de juin, je crois. Je crois que c'est le 11 juin, c'est ça. Alors, c'est une histoire quand même assez significative, c'est-à-dire qu'elle avait fait une intervention publique près de Poitiers, Châteauroux, je crois, et elle avait fait un rappel en disant que, en gros, ce qui s'est passé le 7 octobre, ce n'était pas dans un ciel serein, qu'il ne faut pas oublier ceci, il ne faut pas oublier cela, il ne faut pas oublier cela et tout. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors ça a donné une attaque dans la presse locale. Ensuite, une des associations qui participait au rassemblement, qui était une association musulmane, elle a pris peur. Elle a pris peur parce que la pression sur la communauté musulmane en France, elle est féroce. C'est pour ça qu'on peut regretter que ces associations ne soient peut-être pas plus présentes comme on le souhaiterait et tout. Mais l'islamophobie ambiante et la pression du ministère de l'Intérieur, vraiment les paralyse. Donc ils ont pris peur et ils ont pris l'initiative d'écrire au préfet, ce qui était une erreur, hein, en disant on se désolidarise des propos de Sylvette Rougier. À partir de là, la préfecture a considéré qu'elle avait champ libre, donc dépôt de plainte, etc., etc., et elle attend son procès. Sylvette Rougier, cette dame qui est à la retraite depuis quelques temps, c'est une personne admirable qui a été en milieu hospitalier toute sa vie professionnelle, qui a passé sa vie à prendre soin des autres. Et elle se retrouve accusée d'apologie du terrorisme. On est dans un monde qui n'a plus de sens.
À l'envers.
Oui, c'est vraiment... on marche sur la tête, quoi. Et Sylvette Rougier est une personne qui ne mérite que le respect et que beaucoup d'empathie. Voilà. Alors, il y a le cas de Montpellier que je vais citer, puisque j'habite près de Montpellier, de toute façon, et puis je connais les protagonistes. Montpellier, il y a une petite organisation, donc BDS locale, qui est aussi maintenant affiliée à Urgence Palestine. L'animateur qui s'appelle José Luis Moragues a trois procès sur le dos. Trois, hein, rien que ça. Il y en a un premier qui est un petit peu ancien, qui est lié à une affiche qui avait été faite au début du génocide en disant « Ceux qui ne condamnent pas, ils sont complices ». Bon, là, à ce moment-là, ça n'a pas plu au président du Conseil général. Ça n'a pas plu à la présidente de Occitanie, qui ont déposé plainte, et aussi ça n'a pas plu au PS, bon, alors qu'il a déposé plainte aussi. Tous les trois sont portés partie civile. Condamnation, quand même, avec inscription au casier judiciaire, plus de 8000 euros d'amende et de frais de justice à assurer. Ils font appel, quoi. Et là, on attend maintenant comment va évoluer cet appel. Mais... Si je ne fais pas d'erreur, c'est que en fait, le premier jugement s'était terminé par quasiment une relaxe, vraiment une peine très symbolique. Et ben les trois parties civiles, c'est le parquet qui a fait appel. C'est le ministère de la Justice qui a décidé de faire appel pour que les peines soient beaucoup plus graves. Et à ce moment-là, les trois parties civiles se sont jointes à l'appel du parquet. Il y a deux autres cas sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais actuellement, il y a trois procès de prévus.
Et donc aujourd'hui, que peut-on faire pour se défendre Quelles sont tes recommandations assez rapidement,
oui.
Claude?
Oui, alors je vais aller vite sur les recommandations parce qu'il y a un point sur lequel je n'ai pas parlé, c'est Mulhouse. Mulhouse, c'est un cas qu'il faut relever parce que c'est une affaire qui a duré 15 ans. Donc c'est des militants BDS qui avaient été inculpés, etc., et soumis au procès à cause d'une opération de boycott devant un magasin Carrefour. Donc condamnation, appel... Condamné en appel, passe devant la Cour de justice européenne et ensuite un recours en cassation. Et le recours en cassation a fini par aboutir. Voilà. Donc ça a pris 15 ans, cette affaire-là. 15 ans. Et à un moment donné, les militants impliqués ont eu leur compte bloqué parce qu'ils avaient des frais de justice à assurer pour les plaignants. Enfin, ça va loin, quoi. Hein. C'est que, bon, ça va m'amener effectivement à parler maintenant des recommandations. Oui. Sur les recommandations, bon, je ne suis pas avocat, mais que l'on soit en situation individuelle ou collective, association ou individu, de risquer d'être pris dans toute cette machine, il faut prévoir un avocat, une avocate. Il faut se mettre en relation avec quelqu'un et... Bon, imaginez qu'on puisse avoir recours à lui rapidement à un moment donné.
Là, tu parles des organismes et les individus.
Oui, les deux cas. Oui, dans les deux cas. Dans les deux cas, il faut avoir un avocat de référence. Bon, moi, j'en ai un, comme plein de gens, et comme beaucoup d'associations. Ensuite, il faut aussi penser qu'il y a des frais de justice. Donc, les frais de justice, il faut un petit peu les anticiper. Et pour une organisation, c'est avoir une ligne budgétaire pour ça. Et éventuellement avoir un fonds de roulement avec des appels à collecte, à soutien, etc., qui permettent d'alimenter un fonds. Ensuite, il faut, en tant qu'individu, à ce moment-là, prévoir le cas où vos avoirs bancaires sont gelés, parce que c'est une décision qui fait partie d'un harcèlement particulièrement vicieux. Donc, il faut y réfléchir en se disant, bon, bah, à ce moment-là, qui peut m'aider, dans quelles conditions, etc., mais il faut prévoir une solution de secours. Ensuite, ce qui est déterminant, c'est la mobilisation, c'est l'information. Si vous êtes tout seul, isolé, mettez-vous en rapport avec une association au niveau national, s'il le faut. Sinon, une association locale. Et dans le cas... il y a des cas que je n'ai pas cités, mais où la mobilisation a été importante. Vous aviez des fois 2000 personnes qui étaient présentes à un procès, des signatures de pétitions en pagaille, etc. Enfin, où ça crée quand même une pression sur des juridictions où les magistrats quand même ont envie de faire correctement leur métier. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui aboutissent bien, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Mais il faut anticiper et il faut préparer et ne pas hésiter à demander conseil à un avocat.
Bon.
Voilà pour l'essentiel.
Eh bien, Claude, merci beaucoup encore une fois pour tous ces apports. Tu nous aides bien profondément à voir plus clair. Merci à Cédé aussi pour cette émission Radio Galère. Je voudrais juste rappeler les manifestations. Donc le 14 mars, samedi, un appel à construire les mobilisations sur tout le territoire. C'est contre le racisme, le fascisme et les violences de l'État. Et ensuite, le samedi 28 mars, Journée de la Terre, grande manifestation partout en France, dans les régions, pour la défense des droits du peuple palestinien. Il y a 90 signataires au niveau de notre région. Et vous trouverez tous les détails sur le site de Palestine 13 dans la rubrique « L'agenda ». Merci les auditeurs et puis à bientôt.
À bientôt.